Salut Charline.
On a Frédéric Fromet en co-auteur aujourd'hui.
Je suis au taquet.
Ah bah super, bah tu peux commencer par aller nous chercher un café.
Ouais.
Hein, voilà.
Ah ouais ouais.
Ouais, bah, bon, on reçoit qui au fait?
C'est pas.
Ah bon, vous avez pas fait la doc sur l'invité?
Non, on a délégué.
Ah bon.
Bah, comme Frédéric Fromet était là.
Mais ça consiste en quoi exactement ce boulot de co-auteur?
Ah, c'est quelqu'un qui est en plus dans le bureau puis qui écrit des blagues.
D'accord.
Voilà,
okay.
Voilà le café.
Pourquoi tu ris, Alex?
Bah, c'est une blague, j'imagine.
Vu que c'est le co-auteur, bah, voilà. C'est marrant.
Bah, non,
non,
mais non,
ah non,
non,
c'est pas marrant.
C'est vrai que quand tu me l'as demandé, ça m'a surpris.
Tu sais, on est une équipe, tout le monde sait.
Oui, oui, oui.
Vous dites ça, mais quand j'ai fait les vitres ce matin, personne n'a aidé.
Oh, Fred, mais c'est parce que les autres cherchaient des sujets. Puis voilà. D'ailleurs, vous avez trouvé des sujets?
Alors, moi, j'avais un truc important sur Facebook.
Ouais, ma grand-mère, moi, qui est décédée.
Guillaume, c'est la troisième fois cette année.
Et ben justement, c'est encore plus perturbant.
C'est vrai. Moi, j'en ai trouvé des sujets.
Ah, ah, bah, voilà, merci. Voilà. Alors, vas-y.
Il y a Manuel Valls, le politique le moins aimé des Français.
Bah, c'est bien ça. Vas-y, c'est bien.
J'ai un article sociétal sur le fait que les pauvres fument plus que les riches. Et enfin, plus adapté à l'invité.
Tiens, c'est qui d'ailleurs?
C'est Hélène Vincent. J'ai fait toute la doc.
Tu vois qu'elle est faite.
Très bien, les filles. Merci.
Mais...
Bon, et l'article, donc, c'est quoi hein?
Bah, c'est comme c'est la semaine du théâtre à la télé.
C'est bien, ça. Voilà, on a tout. Bah, bon.
Manquerait plus qu'on me reproche un truc.
C'est bien, maintenant, tu peux t'y mettre. Allez, hop, on écrit des blagues.
Et vous, vous allez où?
On va déjeuner.
Tout à l'heure.
Mais vous êtes des salauds.
Rejoins-nous pour le café, si tu veux.
Ouais, comme on dit en Espagne, vive le café, olé.
Alors, pas de jeu de mots dans les blagues, Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui prend le parti de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont tracter sur l'antenne jusqu'à 18h. Un sondage a eu l'idée perverse de demander aux Français quel politicien suscite le plus de rejet. C'est Manuel Valls. Oh, le rejet, c'est la marque des plus grands.
Je crois avoir été un des hommes les plus détestés de son époque. Ce fut longtemps mon chagrin. C'est aujourd'hui mon orgueil.
Fumer est devenu un signe d'appartenance sociale. C'est une évolution de la société. Les gens à faible revenu clopent davantage que les autres.
Pardon, est-ce que vous pouvez éviter de me fumer dans la figure? Parce que j'essaye d'arrêter.
Je sais pas comment vous faites, moi je peux pas.
Alors moi, je joue de la trompette.
La télévision publique consacre toute cette semaine au théâtre en diffusant quelques pièces jusqu'à vendredi. Les comédiens ont doublement le trac, car au-delà des spectateurs, il y a l'œil noir de l'objectif.
Où est la caméra? Où est la caméra?
Elle est là.
Voilà.
Je suis accompagnée de celui qui joue au théâtre et fait de la télévision, mais séparément. Le tout entre deux émissions de radio, c'est Alex Vizorek.
Bonjour Charlie de Vedenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, attention, 17h20, avec ces jeux de mots, il a été refusé à l'Académie Raymond Devos. Il a été évincé de la confrérie des amateurs de Vincent Rocca et il peine à devenir ami avec Frédéric Fromet. C'est vous, Thomas Croisière, bonjour.
Absolument, mais j'ai été accepté à la confrérie de la Côte de Vos.
Ah, voilà, c'est pas gagné.
Ah ouais,
de quoi on va parler? On va parler de quoi?
Bah écoutez, on va parler de Marie-Francine.
Alors là, Charline est perdue. 17h30. Celui à qui ses parents ont rêvé d'offrir un perroquet quand il était petit pour qu'il puisse parler sans vouloir changer les avis politiques de quelqu'un, c'est Guillaume Meurice.
Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Et bien aujourd'hui, hommage à Michel Sardou, voilà, qui a annoncé qu'il arrêtait de chanter Michel et ses chansons polémiques. Mais bon, faut relativiser.
Voilà, il y a bien d'autres chanteurs qui disent des choses que, par exemple, Nique ta mère.
Bah, Michel, il n'aurait jamais dit ça, jamais il aurait dit Nique ta mère.
Et enfin, 17h40, celle qui n'utilise pas les livres que pour caler son armoire à digestif, c'est vous, Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour.
De quoi on parle?
D'un sujet auquel je comprends rien, et là j'ai tout compris.
C'est un pitch en soi.
Et voici celle qui va présider notre assemblée. Vous démarrez votre carrière dans les théâtres nationaux que vous n'avez d'ailleurs jamais quittés. Théâtre de Chaillot, Théâtre de la Ville, Théâtre National de Strasbourg. En 88, vous êtes Marielle Lequesnoy dans La vie est un long fleuve tranquille. En 91, vous tournez pour Yves Robert dans Le bal des casse-pieds, puis pour André Téchiné dans J'embrasse pas. Et en 2013, vous jouez aussi dans Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé, entre autres. Le tout en poursuivant votre carrière à la télévision et au théâtre aussi côté mise en scène. Vous êtes, on vous a reconnu, hein, mais on a envie de l'entendre, vous êtes...
Hélène Vincent.
Oui. Sur Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Bienvenue Hélène Vincent.
Merci.
On peut vous revoir en salle demain dans un nouveau film, le film de Valérie Lemercier qui s'appelle Marie-Francine.
Mm-hmm.
Marie-Francine, c'est Valérie Lemercier qui a 50 ans, son mari la quitte pour la même en plus jeune. Elle perd son boulot et elle retourne habiter chez ses parents. chez vous, chez Dadik et Papik.
C'est ça. Et moi, je suis la maman, oui.
Exactement. Ouais. Couple bourgeois d'un quartier chic de Paris. Hélène Vincent, avec votre carrière au théâtre, au cinéma, à la télévision, vous revenez dans un registre qui vous a popularisé, celui de votre personnage dans La vie est un long fleuve tranquille, même si c'est pas tout à fait le personnage, mais il y a des points communs de
non,
de
mais ça pourrait être une cousine ou une tante de Marielle Le Quesnoy.
Exactement. Et est-ce que c'est un registre qui vous met à l'aise ou justement c'est un registre qui, nous, à nos yeux, semble facile avec vous, mais c'est peut-être pas comme ça que vous le ressentez.
Non, ça me met pas à l'aise du tout, c'est à l'opposé de moi.
Vous êtes punk, il faut le dire aux gens qui ne vous voient pas.
Comment ?
Vous êtes punk, vous avez une crêpe sur la tête.
Et je dois. Je vais, un scoop, mais comme Valérie en a parlé, j'ai commencé par refuser cette proposition parce que justement je me suis dit. J'ai eu, bon, Marielle Le Quesnoy, c'est une grande rencontre dans ma vie. Étienne Chatillier, c'est une chance formidable. Un moment où j'allais quitter ce métier tellement je travaillais pas. Donc c'est vraiment, j'ai tout pour aimer ça. En même temps, ça a été une espèce de placard dans lequel on a essayé de m'enfermer pendant longtemps. Et quand Valérie est arrivée avec ça, je me suis dit, ah non, c'est rebelote, ça fait des...
Voilà. Elle a peut-être fait pour vous embêter.
Il y a deux ans, quelques heures de printemps avec Stéphane Brisé, peut-être que... Eh ben non, ça revient. Et puis en fin de compte, je me suis dit, allez, hop, elle a su me convaincre.
On fait et pareil pour négocier nos cachets ici. On commence par dire non, on ne veut pas refaire encore les cons.
Oui, mais ce n'était pas une question de cachet, là, je peux vous dire. Enfin, quoi, franchement, ça m'a... ça m'a posé question.
Donc, c'était pas forcément facile. Il y avait un challenge.
Non, c'est pas facile. Ouais. Quand quelqu'un vous dit, et ça c'est le mystère dans ce métier, j'écris le rôle pour vous, on a envie de foncer dans une glace, regarder, se dire mais qu'est-ce qu'ils ont donc vu? Qu'est-ce qu'ils ont donc vu? Parce que c'est tellement loin de moi, je sais pas comment vous dire. Pendant des années, j'ai joué des personnages tragiques au théâtre, etc. Voilà. Bon. Ah
oui. Et donc vous interprétez un rôle qui a été écrit pour vous. Interprétez le rôle de la maman de Valérie Le Mercier, qui réalise et qui incarne l'héroïne, Marie-Francine. Ouais. Et donc dans tout ça, le fait d'interpréter un rôle qui a été écrit pour vous, vraiment spécialement, ça en plus, ça met une forme de pression. C'est-à-dire est-ce qu'on se dit à chaque fois, est-ce que vraiment je colle à l'aspiration de l'auteur, du réalisateur?
Oui, mais on se pose la question de savoir comment on va s'en sortir. Et puis très vite, quand c'est avec Valérie, elle exprime tellement nettement ce qu'elle veut, de façon tellement obstinée, tenue jusqu'au bout, avec enthousiasme comme c'est bien, avec une façon de dire non quand c'est non et c'est définitif, que au bout d'un moment on se pose plus la question. Enfin moi je me suis plus posé la question. Je regardais Valérie, j'attendais après les prises qu'elle me dise c'est bon, on passe à la suivante, à l'autre séquence. Et puis voilà, je me disais je peux pas avoir de regard sur ce que je fais au cinéma. C'est pas possible, on peut pas être jugé parti. Donc le seul point de repère c'est le regard du réalisateur, et quand il dit elle est dans la boîte, et ben voilà, elle est dans la boîte.
Alors Valérie Le Mercier revient donc chez ses parents, chez vous. Elle finit par croiser Patrick Timsit et va peut-être se nouer quelque chose
amour.
Avec Patrick Timsit.
Quel amour celui-là.
Il s'est noué un truc.
Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Patrick Timsit?
Mais non, mais franchement, oh là là.
C'est vrai, remarquable acteur, il le prouve encore une fois dans le film, n'est-ce pas Thomas Cronier?
Et avec Valérie, il forme un couple, mais à tomber par terre d'émotion.
Non, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'on le retrouve un peu dans ce qu'on avait aimé aussi dans La Crise, c'est-à-dire toute cette humanité-là. Et en fait, c'est deux fois deux femmes, Colline Serrault et Valérie Le Mercier, qui le révèlent, qui savent utiliser cet acteur.
Mais qui le regarde comme il est, mais comment les autres regardent. Parce que Patrick, il est à tomber, quoi.
Et le regard des hommes est très différent sur lui.
Alors qu'il est d'une telle tendresse, d'une douce... Enfin, je sais pas, voilà.
Et votre binôme, c'est Philippe Lodenbach, c'est ça?
C'est ça, oui. Et oui, c'est Philippe que j'ai rencontré dans un cours d'art dramatique quand j'avais 18 ans.
Ah, et c'est Papik, c'est le papa de Marie-Francine, dans le film qui sort en salle demain, donc de Valérie Le Mercier, avec Valérie Le Mercier, Patrick Timsit, on l'a dit, avec Denis Podalydès aussi, Nadège Bosson-Dianier, Marie Petiot, Anna Lemarchand, et bien sûr, Hélène Vincent, qui est avec nous pour notre plus grand bonheur, jusqu'à 18h.
Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade aux pommes préparée a cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clair. je ne mâche pas, je ne mâche pas. Au nom de la castafiore, au cœur d'artichaut, de la tarentelle et du tartare au couteau, du coulis aux fraises et de ma voix dans l'écho, je ne mâche pas.
Camille, un exprès de son nouvel album, parce qu'on l'a choisi, donc ça fait exprès. L'album s'appelle Oui, c'est une journée spéciale Camille sur France Inter, au cas où vous nous rejoignez maintenant et que vous auriez échappé ou resté avant, mais c'est une journée Camille. Et vous pouvez découvrir les nouveaux titres de Oui sur franceinter.fr. Évidemment, c'est une Belge qui dit Oui.
Je ne me lasserai jamais de ça.
Et sans l'intervention de la SNCF, hein, qui a eu la même idée en même temps que Camille, c'est formidable. Oui. Hélène Vincent est avec nous, Hélène Vincent, qui joue dans Marie-Francine, c'est même sa maman, dans Marie-Francine, qui se rend salle demain avec notamment Valérie Lemercier et Patrick Timsit. Et pour entourer Hélène Vincent...
Eh bien, il a mis sa casquette de navigateur. Thomas Croisière, elle a Guillaume Meurice,
oui,
et Juliette Arnaud, qui va nous parler d'un sujet qu'elle ne maîtrise pas. Bon, voilà, comme d'habitude.
Par contre, nous, l'information, alors que nous, on maîtrise à mort, attention.
Bon, allez, à Bruxelles, j'ai pris le train.
Vous mentez. Le journal de presque 17h17.
Ça vous reprend.
C'est un mensonge.
Et on commence par les titres.
C'est l'information du jour. Alors qu'elle était une pièce maîtresse de l'équipe, elle a annoncé officiellement son départ.
C'est Marielle de Sarnez a démissionné à cause de l'enquête des soupçons d'emploi fictif.
Non, c'est Enora Malagré qui quitte. Touche pas à mon poste. Vous rendez compte du choc.
On s'en rend pas bien compte.
Non, pas
de
bien,
ça.
C'est vrai. Selon l'INSEE, le moral des ménages atteint son plus haut niveau depuis 2007.
Oui, alors attention, parce que du côté des époux Fillon, le moral du ménage n'est pas au top.
Ah oui, ça plombe le résultat.
Ça plombe le résultat. Ça.
Et des brèves ?
Et les brèves n'ont pas démissionné.
Dommage.
C'est pas gentil. Et on commence donc par cette nouvelle tuile pour le gouvernement.
Marielle de Sarnez, l'actuelle ministre des Affaires européennes, est sous le coup d'une enquête préliminaire du parquet de Paris pour abus de confiance lorsqu'elle était eurodéputée.
Bah, la preuve qu'ils sont quand même cohérents au gouvernement.
Ah bon?
Bah, visiblement, elle s'y connaissait en affaires européennes. Donc c'est normal, c'est ça pour elle.
Reste au gouvernement avec Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics et ex-Les Républicains, qui a fustigé une droite, je cite, qui parle en ancien franc.
Ah, ben voilà.
Mais quoi?
Ben, quand Bruno Retailleau annonçait 200 000 participants au Trocadéro, il a compté en ancien franc. C'est pour ça. C'est
pas... À gauche, à présent, dans une interview, Jean-Luc Mélenchon s'en est pris, je cite, au système poutinien de Macron.
Oui, alors dans sa bouche, on ne sait pas si c'est une critique ou un compliment, mais il va sans doute un jour nous l'expliquer.
Côté lutte sociale, camarades, les transporteurs de matières dangereuses ont poursuivi leur mouvement de grève déclenché vendredi.
Et on envoie donc tout notre soutien aux transporteurs de matières dangereuses, notamment aux chauffeurs de Marine Le Pen.
Oui, justement, après les législatives, Marine Le Pen veut organiser des assises de l'opposition.
Oui, il reste à définir comment le mouvement Debout la France va participer aux assises.
Effectivement.
Une réflexion à se faire.
Passons à l'international avec ce jeu de mots.
Oui, attention.
Mais il y a un drame à l'international.
Le gros dossier du jour, Hélène Vincent, le Premier ministre belge a des problèmes d'audition.
Et je comme moi, les deux.
Bah, oui, mais alors, vous allez voir comment lui, ça lui est arrivé. Il était trop près du fusil lors du coup d'envoi de la course Les 20 km de Bruxelles.
Ah, ça c'est dommage.
C'est dommage. Et les Français, quand je raconte ça depuis hier, ne me croient pas. Écoutez, le 13h de la RTBF, ce midi, on est au premier degré, c'est le premier titre.
Et d'abord donc un arrêt sur image. Charles Michel grimaçant au top départ des 20 km de Bruxelles. Notre Premier ministre a été surpris par la détonation du pistolet à blanc. Surpris et blessé aussi au tympan. Il a dû annuler certaines obligations et devra subir un traitement.
Pour rétablissement. Pour rétablissement, Charles.
Voilà. Passons donc à ce drame télévisuel. La chroniqueuse Enora Malagré quitte l'émission Touche pas à mon poste.
Voilà, enfin quelqu'un qui reconnaît que son emploi était fictif.
Et immédiatement, une offre d'emploi est tombée tout
de suite. Et oui, tout de suite avec ce tweet. Bonsoir, Enora Malagré. Désolé d'apprendre que tu quittes TPMP. Si jamais tu veux t'ouvrir à une autre expérience, signé Jackie et Michel.
Le site porno. Porno, quand même, il part pas le nord.
Non, autant vous dire que j'attends avec impatience le moment où Clara Dupont-Monod va nous annoncer sa démission.
On l'embrasse, on l'embrasse jeudi. Allez, sport toujours. Le Tour de France s'élancera cette année de Bruxelles.
Alors là, je dis non. Et c'est pas cette année, c'est l'an prochain. Mais je dis non, non.
Ah oui,
parce que la Belgique, c'est pas la Hollande. On n'a pas vocation à accueillir tous les drogués du monde.
Merci.
Terminé.
Vous avez des brèves sinon ?
J'ai mieux qu'une brève. J'ai un son magnifique. Le meilleur moment de la soirée des Molières. Hier, Blanche Gardin remettait un prix en compagnie d'un jeune acteur de la Comédie Française. Et elle se confiait sur sa passion du théâtre étant jeune.
Mes parents m'avaient inscrit à un atelier de théâtre et j'adorais être sur scène avec mes petits camarades, surtout parce que pendant qu'on était sur scène, le metteur en scène ne pouvait pas nous toucher. C'était un metteur en scène génial par ailleurs.
Ouais.
Ce qu'il faut savoir, séparer l'homme de l'artiste.
Donc on est là pour remettre...
Et c'est bizarre d'ailleurs que cette indulgence s'applique seulement aux artistes. Parce qu'on ne dit pas par exemple d'un boulanger, oui d'accord c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon il fait une baguette extraordinaire, on ne sait pas. Hein.
Voilà. On en connaît une qui ne tournera pas avec Roman Polanski.
Merci Alex, et avec la collaboration de Frédéric Fromet,
bien sûr. Il est là dans le bureau.
Qui ne fait pas que les vitres et servir le café. Hélène Vincent, on est avec vous et on va en profiter. On va changer le monde et trouver des solutions pour la France avec vous. Oui. Premier sujet, en quelques mois, Manuel Valls est passé de Premier ministre à Premier détesté de France. Alors il paraît que c'était prévu, ça s'appelle l'enfer de Matignon. Mais là, 54% des Français le rejettent. Devant Marine Le Pen, 53%. Le type est plus détesté que Le Pen et il est en campagne dans l'Essonne pour occuper un siège à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on dit à Manuel Valls dans ces cas-là ?
Manu, rentre chez toi, des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la tôlière. Je croyais que jamais qu'en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, c'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Elle déconne pas Manu, tu vas pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, les copains qui reviennent.
Voilà, on s'était interdit de le passer s'agissant de Manuel Valls depuis des mois et des mois et des mois. Ça me semblait trop évident, mais là, ça c'est un appel de sa part pour qu'on le diffuse aujourd'hui, c'est sûr. On a un petit peu envie de lui dire rentre chez toi, donc on l'a fait en chanson. Alors, oubliez ce que je viens de dire, Hélène Vincent, parce qu'on veut absolument être objectif sur le sujet.
Comme toujours.
Déjà, interrogeons ce principe de faire un sondage pour savoir qui est le plus détesté des politiques. Est-ce que ça vous semble utile ?
Ben non, et je trouve pourtant qu'on n'est pas à court de sujet plus intéressant que celui-là. Donc je pense qu'on aurait pu aller ailleurs.
Et ça se fait aussi régulièrement dans les médias, le classement des personnalités les plus détestées, ou régulièrement d'ailleurs, ce sont des animateurs très populaires qui se retrouvent détestés, donc c'est pas parce qu'on les déteste qu'on les regarde pas, donc si ça se trouve, c'est pas parce qu'on déteste Manuel Valls qu'on votera pas pour lui.
C'est propre à
la
France.
Et puis quand il s'agit de nommer au pouvoir des hommes politiques, les questions ne se posent pas entre j'aime pas, je déteste, et je pense qu'il y a d'autres sujets à aborder et d'autres questions à poser.
Ah, vous défendez le programme de Manuel Valls.
Là, je sors mon joker.
Votre jus de fruits.
Manuel Valls, il a pourtant jamais été inquiété par la justice. Il appelle c'est pas à la haine comme certains candidats du Front National. Donc,
ça se discuta quand même. Hein.
Oui, alors
les robes n'ont pas vocation à s'intégrer dans la République.
Il incite au rejet de l'autre.
Voilà.
On va dire.
Voilà.
Il y a encore un cran qui est le FN qui est encore au-delà quand même.
Oui, ils sont plus décomplexés.
On ne peut pas les mettre sur le même plan.
C'est un racisme complexé, Manuel Valls.
D'accord, si vous voulez. qu'est-ce qui semble clivant chez lui ? Qu'est-ce qui fait qui peut être détesté par la moitié des Français ? Vous ressentez aussi une espèce de crispation venant qui se dégage de son personnage ou pas ?
Non, pas vraiment. Je sais pas. Je suis très embêtée.
C'est presque devenu un personnage de comédie. Parce qu'il lui arrive tellement de merde.
De comédie ou de tragédie.
Voilà, lisez Shakespeare et des histoires comme celle-là, il y en a plein.
Ouais.
Hein, voilà.
Oui, j'allais vous demander.
Des meurtres en amis, il y en a plein. Des trahisons, il y en a plein. On n'en meurt pas. On se représente. Voilà, Shakespeare. Et Shakespeare, cette année, a été très bien servi par les dernières élections. Je dois dire que là, c'était merveilleux.
Vous avez observé ce petit théâtre politique avec...
Comme tout le monde. Bon, je suis pas autorisée à parler de ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments absolument extraordinaires qui se sont passés quand même, non ?
Il peut arriver quand vous travaillez un rôle type shakespearien que vous vous inspiriez de personnalités d'aujourd'hui en vous disant, tiens, celui-là, si je parviens à choper ses mimiques, son intention, sa violence, je vais rentrer dans le personnage.
Ouais, en général, je pense que les comédiens se nourrissent de tout ce qui passe pour jouer, on est des espèces de mémoires comme ça, on engrange plein de choses, et ça sort un jour ou un autre, sans qu'on l'ait vraiment prévu. Mais là, je dois dire qu'on aurait, en ce moment, j'aurais joué dans une pièce de Shakespeare, les pièces dites historiques, où il est question du pouvoir, je trouve qu'il y avait de quoi m'inspirer tous les jours, voilà, dans la presse.
Et vous regardez ça depuis le Morvan, toujours, un peu? Vous êtes installé?
Oui. Non, dans le Morvan, j'écoute France Inter et France Culture.
Oh, voilà. Hélène Vincent.
Quel bobo, celle-là.
C'est parce qu'il capte pas énergie.
C'est peut-être ça. Thomas Croisière, vous avez le micro. Oui. Si on vous le laissait pour nous parler cinéma.
C'est pas mon plaisir. Bonjour Hélène.
Bonjour.
J'imagine que vous me connaissez, Thomas Croisière, organisateur de soirées privées. Vous savez, communion, bar mitzvah, mariage, embarqué pour un long fleuve tranquille de rire. Avec Thomas Croisière, réservation 01 45 24 20. Hélène Vincent, je suis heureux que vous soyez venue nous présenter Marie-Francine, le nouveau film de Valérie Lemercier, car déjà vous faites partie de la tradition des grandes comédiennes ayant un prénom pour nom, comme Sarah Bernard, Anouk Aimée, Françoise Fabian, Miu, ou plus proche de nous, Juliette Arnaud. Et surtout, j'ai pris énormément de plaisir à vous revoir en grande bourgeoise, moi à qui Madame Le Quesnoy de La Vie est un long fleuve tranquille rappelait tellement la mer, alors que je portais des duffelcoats, des church, et que mes cheveux me permettaient encore de faire une mèche devant, pas celle qu'aujourd'hui je rabats sur le côté. Je sais que le spectre de ce personnage que vous qualifiez de « bas du cul de la tête » vous a fait hésiter à accepter celui de Dadic. Mais vous avez bien fait d'épouser ce rôle comme d'épouser à l'écran Philippe Claudenbach, car le couple que vous formez est hilarant, de bout en bout, un peu comme mon corps. Marie-Francine raconte l'histoire de Marie-Francine. Jusqu'ici, c'est cohérent. Oui, Ben-Hur raconte l'histoire de Ben-Hur. Donc, Marie-Francine raconte l'histoire de Marie-Francine. Une cinquantenaire larguée par son mari, virée de son boulot, et contrainte de retourner vivre chez ses parents. Des bourgeois très GBM, comprenez golf, bridge, messe, qui l'infantilisent totalement. Et sa situation se complique encore lorsqu'elle rencontre et tombe amoureuse de Miguel, tendrement interprété par Patrick Timsit. Le film se mue alors en comédie romantique. Pas comme Ben-Hur, qui n'est pas une comédie, mais qui est très romantique. Au passage...
Wow, je l'ai.
Vous l'avez, mais je dois tout de même l'attribuer. Je ne remercierai jamais assez François Fellman de m'avoir inspiré ce jeu de mots de qualité. N'oublions jamais les valses de Vienne.
Ah oui, romantique. Ah oui.
Ça, c'est beau. Ça, c'est la musique.
Allez. Voilà, ça c'est quand même autre chose que Camille. Bref, merci pour ce moment, François.
Vivement la journée, François.
Marie, on y travaille. Marie-Francine a cette petite musique à la Étienne Chatillaise, l'auteur de Tanguy et Tati Daniel, et à la Colline Serrault, réalisatrice de La Crise et Trois Hommes et un couffin que l'on aime beaucoup retrouver. Valérie Lemercier vieillit doucement avec sa filmographie, et après s'être demandé c'est quoi être une fille dans Le Derrière, une femme dans Palais Royal, une mère dans 100% Cachemire, elle se pose la question de la place de la MILF, cette mère à qui l'on aimerait bien compter fleurette, ou pas d'ailleurs. Un des sujets du film est au fond de savoir si on a aujourd'hui le droit de vieillir, si on a le droit de ne pas connaître Tinder, Snapchat ou Ryan Gosling, si on a le droit d'écouter du Georges Moustaki ou du Michel Legrand. Autrefois, la vieillesse était synonyme de sagesse, d'expérience, de transmission. Aujourd'hui, dans nos sociétés jeunistes, elle incarne plutôt le déclin, la sénilité, voire le fardeau. On n'ose plus parler des vieux. On les cache derrière des mots. Les seniors, les happy boomers, les sexygénaires. Alors, a-t-on le droit de vivre passé 50 ans? Ken Loach, dans le bouleversant Moi, Daniel Blake, répondait clairement non. Valérie Lemercier, elle pousse dans Marie-Francine un grand cri plein d'une rage adolescente pour dire oui. Oui, l'on peut échapper à cette malédiction du MMS. Vous savez, MMS, c'est quand on a 20 ans, c'est matin, midi et soir. Quand on en a 30, c'est mardi, mercredi, samedi. À 40, c'est mars, mai, septembre. Et après 50 ans, ce sont mes meilleurs souvenirs. Assez justement, le film se nomme en anglais « 50 is the new 30 », 50 est le nouveau 30. Si, comme le dit Juliette, il n'y a que pour la fermentation des alcools que l'âge est important, ma grand-mère disait « l'âge, c'est un peu dans les artères, mais beaucoup dans la tête ». Alors oui, on a le droit d'aimer après 50 ans, surtout parce que quand on aime, on a toujours 20 ans. D'ailleurs, quand je me regarde dans le miroir, je vois toujours un mec de 20 ans qui pèse 65 kilos et qui a tellement de cheveux qu'il pourrait en vendre pour s'acheter des disques de François Fellman. Alors, quel que soit notre âge, continuons d'aimer, parce que n'oublions jamais ce que chantait ce grand artiste, que dis-je, ce poète, le prophète, trop peu diffusé sur France Inter, non. Et qui a décidé d'arrêter de chanter parce qu'à 70 ans, il est trop vieux pour ça.
Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants. De 7 à 77 ans,
tous ensemble,
elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris.
Merci Hélène.
Il n'y a pas de quoi.
Merci
Vincent.
Merci Michel.
Oui.
Merci Sardou.
Merci Thomas Croisière, que vous pouvez revoir avec sa belle casquette sur franceinter.fr. Vous avez un joli grain de voix, Hélène Vincent.
Hein? Mais j'ai des talents. Mais, et comme on a le droit de vieillir, je suis pas au bout. Et vous allez voir ce que vous allez voir.
Et vous êtes
vous
fan.
Allez voir, je vais chanter.
Hein, vous êtes fan de comédie musicale d'ailleurs. Vous avez adoré La Lande.
C'était ça que je voulais faire. Ouais. C'était mon rêve, faire de la comédie musicale.
Mais c'est pas fini.
Voilà. Mais on attend.
Non,
on attend.
Voilà, il faut en écrire une avec une senior dans le rôle principal.
Très bien.
Voilà, sur Partin à roulette.
Voilà.
Hélène Vincent, qui joue dans Marie-Francine, qui sort en salle demain, où vous êtes vraiment solaire, et c'est dans les deux sens du terme, parce que c'est tout à fait sincère, et en plus, Hélène Vincent, solaire, c'est un indice pour une scène d'anthologie dans le film. On n'en dit pas plus, et vous irez le voir demain. C'est vrai, hein. Vous êtes sur France Inter. Allez, à venir, Guillaume Meurice, accrochez-vous à votre string.
Comes up, the sun goes down, beetles start to creep around. It's the flame in the blood, fire and breath. 14 names, not small or chest, got a rose tattooed on her thigh. Dead man raised inside, makes this young blood wine. My baby's got the Cadillac walk. Cadillac walk, she got a Cadillac walk. Now when Rita turned down a bed, grown man, pleading babe, baby, honey, baby, you're the one. Carve your name right on my gun. Ooh, ain't she something nice? Bones rattle my dice.
Cadillac Walk sur France Inter où il est 17h37. Nous sommes en compagnie d'Hélène Vincent qu'on peut voir dans Marie-Francine qui sort demain en salle. Et à côté de vous, Hélène Vincent,
vous l'écoutez depuis
le Morvan, il est là. C'est Guillaume Meurice.
Ben on rigole, mais on n'est pas là pour se défiler quand l'actualité est moins gaie, voire tragique. Et c'est le cas hein, en ce moment, car Michel Sardou a annoncé qu'il allait arrêter de chanter, comme l'a rappelé à l'instant Thomas Croisière avec talent. Plus précisément avec Jean-Michel Talon, puisque c'est le nom qu'il donne à sa casquette. Michel s'en va, voilà, ça fait plaisir à personne ici. Mais je vais vous demander de rester calme. Hein. Moi-même, je fais ce que je peux pour surpasser mon émotion. Partout en France, les réactions ne se sont pas faites attendre. À la maison de retraite des Mimosas, c'est la consternation. À l'amical du lifting raté, c'est la tristesse qui l'emporte. Michel, c'était pour chacun un dieu vivant, une étoile qui nous guidait, non pas vers des lendemains, mais vers des avant-hier qui chantent. Moitié jukebox, moitié tract du RPR. Mais Michel, c'est le peuple de France qui en parle le mieux. Un peuple qui lui en veut un peu.
Bah, à 70 ans, on peut continuer à travailler quand on a envie. Alors s'il aimait bien son métier, il pourrait. Je comprends pas. Qui quitte ?
Ah, vous trouvez que c'est un peu une feignasse alors ?
Ah non,
non, non. Non, non, on va pas aller jusqu'au blasphème quand même, c'est Michel, hein, Saint-Michel. Qu'est-ce qu'elle aime, cette autre dame, chez Michel ?
Tout, j'aime tout.
Ah oui, vous êtes fan.
Fan,
fan de Michel Sardou.
Il a aucun défaut, ce monsieur.
Voilà, c'est vrai.
Oui, aucun.
Il y en a qui disent qu'il est un petit peu réac, de droite.
On ne peut pas juger les gens comme ça, ça ne se fait pas. On a le droit d'avoir ses idées, son opinion, mais on n'a pas à juger les gens. Non, non, il n'a pas de défaut.
En disant ça, vous le jugez, du coup?
Non, je ne le juge pas.
Mais si vous dites qu'il est parfait, c'est que vous le jugez.
Je le juge parfait, oui, comme la glace.
Comme la glace, voilà, il est parfait comme la glace. Hein. Il a ce côté froid et sucré en même temps, avec du relief, avec de la texture. Car Michel, ce sont aussi des polémiques sur certaines chansons, on ne va pas se mentir, on n'est pas là pour se voiler la face. Notamment, bon, le temps béni des colonies, qu'on a dit au second degré, et puis je vais vous dire, même si elle était au premier degré...
Bon, la France est un pays colonial, bon, oui, ça ne me choque pas. On a fait probablement des exagérations, mais je crois que les Algériens, par exemple, en tiré également parti un petit peu.
Parce que la torture, c'est une exagération.
Ah, ça, j'en sais rien, je ne peux pas vous dire.
Bah voilà, parce que finalement, on ne sait pas hein, qui sommes-nous pour juger. C'était peut-être une manucure. Voilà, la GGN, c'était peut-être un défibrillateur pour les Algériens qui faisait un arrêt cardiaque. On ne sait pas. C'est possible, hein, je l'ai lu dans les mémoires du docteur Bijard. Ce sont, je vais vous dire, des polémiques faites pour nuire à Michel, comme la chanson « Je suis pour » qui parle de la peine de mort. Bon, j'en ai parlé à une autre dame ce matin.
Bon, je pense qu'il a dû prendre des positions un petit peu tranchées, peut-être. Hein.
Sur la peine de mort, il a pris des positions tranchées.
Oui.
Sur la guillotine, il a pris des positions tranchées.
Des positions tranchées aussi, oui, je trouve.
Finalement, c'est cohérent.
Oui.
Voilà, une belle position tranchée sur la guillotine, à plat ventre, avec une coupe dégagée derrière les oreilles. Comme on les aime, finalement, comme on aime les fans de Michel, parce qu'à un moment donné, je vais vous dire, ça va, quoi.
Oui, je suis pour la peine de mort.
Voilà. Est-ce que vous êtes pour la peine de mort pour les kamikazes?
Les kamikazes, bah oui. Oui, moi je suis pour la peine de mort. Pour certaines choses, je suis pour la peine de mort. Ouais.
Même pour les kamikazes?
Ils sont détraqués, ces gens-là.
Ah oui, mais ils sont déjà morts, du coup, s'ils sont kamikazes.
Oui, ah bah d'accord, si on veut.
Oui, bah, oui. Enfin, sauf s'ils se ratent. Mais est-ce qu'un kamikaze qui se rate est encore un kamikaze, du coup? Bah, c'est une question philosophique. Et c'est pas gênant, parce que Michel, il a fait aussi de la philosophie dans ses chansons. Tiens, sa chanson préférée à ce monsieur?
Le surveillant.
Le surveillant, alors.
Oui, le surveillant, j'aimais bien.
Monsieur, le surveillant des classes secondaires était un peu efféminé.
Voilà. Ah bah voilà, monsieur est spécialiste de Michel Sardou.
Non, attendez, s'il vous plaît, le dites pas à la direction, sinon ils vont me transférer. Sur RMC. Non, j'ai dit les paroles au pif. Alors, ceci dit, attendez, hein, je vais avoir des emmerdes. Alors, ceci dit, c'est vrai que dans les chansons de Michel, il y a le surveillant un peu efféminé, il y a des milliers de pédales qui sortent de Carnegie Hall. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un petit peu d'homophobie? Bon.
Qu'est-ce qu'on nous casse les pieds avec l'homophobie? Il y en a marre de toujours nous mettre dans des carcans comme ça. Il faut aimer tout le monde, les chats, les chiens, les homosexuels, les machins, c'est fatigant. On aime qui on veut déjà. On n'est pas dans un pays de liberté, non? Il faut aimer les chats... noirs, les arabes, les homosexuels. Les pédophiles, les machins. Non, c'est bon, stop. On aime qui on veut.
C'est quoi le point commun entre les chats, les chiens et les homosexuels?
Mais on a le droit d'aimer qui on veut. Tu as le droit d'être homophobe, de ne pas aimer les homosexuels. Et les homosexuels, non?
Ben voilà. Alors, allez où la liberté, là? C'est ça, c'est Michel, c'est l'esprit Michel. C'est la liberté, même si des fois, bon, il y a peut-être, je dis peut-être, un peu de discrimination.
Non, aucune. Quand tu vois un chien que tu donnes un coup de pied dans le derrière, c'est pas de la discrimination aussi?
Un chien homosexuel, c'est pareil?
Non, pas encore.
Non, on attend une mutation du chien en homosexuel ou inversement, hein, merci. À monsieur qui est un mélange d'Hanouna et de Darwin, hein, finalement. C'est assez spécifique. Voilà pour l'hommage à Michel qui ne serait pas tout à fait complet si on n'ajoutait pas la nouvelle génération qui écoute Michel aussi et qui aime Michel.
On écoutait sa musique, on aimait bien. On aimait bien.
C'est vrai?
Ah oui.
Qu'est-ce que vous aimez bien chez Michel Sardou?
Sa barbe.
Non, bon, alors là, c'est une fin d'hommage un petit peu loupée. Mais rassurez-vous, l'album hommage de reprise arrive hein, avec « Mes chers parents, je vole » chanté par le fils Balkany. « Musulmane » chanté par Marion Maréchal Le Pen. « Ne m'appelez plus jamais France » chanté par tout un peuple. « Orphelin » de Michel. Allez Michel, on t'oublie pas et comme tu le dis si bien.
Salut.
Oui, alors vous emballez pas.
Non,
oui, mais ça va. Oui, non, mais ça va. Vous emballez pas. Merci Guillaume Meurice. Vous les avez trouvés à Saint-Nicolas-du-Chardonnay ou comment ça se passe?
Je les ai trouvés sur un petit marché dans le 15e, tranquillement.
Ah ouais, ça se trouve comme ça.
Ouais, ça se trouve comme facilement.
Ça se promène en liberté.
Ça se promène en liberté. Le fan de Michel Sardou est facilement trouvé.
J'espère que vous donnerez quand même un droit de réponse à Michel contre ce dossier à charge.
On l'invitera, j'espère qu'il viendra.
Allez,
passons à autre chose. Revenons avec Hélène Vincent qui est dans notre compagnie. Et tiens, un thème qui est central dans le film, dans Marie-Francine. La cigarette qui devient un indice de la lutte des classes, figurez-vous. L'évolution de la consommation de clopes montre que les gens à faible revenu fument désormais plus que la population à haut revenu. La cigarette est un signe d'appartenance. Déjà, on le savait, à la communauté des adultes, à d'autres communautés aussi.
La cagoule, Matteo, on y va.
Deux secondes, je finis la cigarette.
Tu fumes trop, c'est la cigarette qui va te finir.
Je vais peut-être essayer le pacht anti-tabac, non?
qui pacht. On dit le patch. Le patch.
Ça va. T'avais compris. C'est le principal, non?
Un extrait de l'enquête corse d'Alain Berberian. Hélène Vincent, donc voilà cette information. Donc les petits revenus viennent à fumer plus que les autres revenus.
Dans ma croisière fume, apparemment.
Le stress est mis en cause dans les études. Le stress, la peur de l'avenir, etc. Oui, ouais. On s'est dit, tiens, c'est vraiment... le film, il tourne autour de la clope.
Oui, Marie-Francine, alors, le paradoxe, c'est que Marie-Francine... à qui ses parents essayent de donner une petite planche de sortie du côté du social en investissant dans une petite boutique de... Comment ça s'appelle, les cigarettes machin, là ?
E-cigarettes, cigarettes électroniques.
Les e-cigarettes, voilà. Qui n'a jamais fumé, je parle de Marie-Francine, se met à fumer une fois qu'elle est dans ce petit magasin.
Et chez ses parents.
Et chez ses parents.
Et une fois qu'elle est pauvre, justement.
Oui,
puisqu'elle est au chômage,
oui,
et qu'elle
mais en fait, c'est parce qu'elle se prend un coup du produit dans l'œil, etc. Ça, elle est hyper stressée. Et effectivement,
le stress. Ouais, ouais.
Le stress. Écoutez, c'est une ancienne fumeuse que vous adressez. J'ai essayé d'arrêter de fumer pendant longtemps. J'y suis parvenue.
Comment?
Eh ben, avec bien du mal, madame. Avec bien du mal, vraiment. Voilà. Maintenant, franchement, j'y pense plus du tout. Donc, c'est possible, mais c'est vrai. Que je crois que dans certains milieux, la cigarette est un support ouais. pour répondre à certains stress.
Et là, c'est un élément de comédie. Il y a la cigarette électronique.
Ah bah oui,
et alors, elle fume des clopes normales dans la boutique.
Totalement normal. Oui.
Et c'est vraiment un truc sympa parce qu'il fume tout le temps dans le film.
Oui.
Donc c'est vraiment un élément de comédie.
Voilà. Mais c'est un truc très provocateur d'ailleurs chez Valérie Le Mercier parce que faire un film à notre époque, une comédie où les personnages principaux sympathiques fument,
se mettent à fumer
oui.
à l'âge qu'elle a.
À l'âge
comme
qu'elle
une
a,
ado mettre, de, oui, de 14 ans. Oui. Pour montrer qu'elle est grande.
Et même, ça crée du lien social, puisque les équipes du restaurant et elle se retrouvent dehors pour
voilà,
fumer et communiquer.
Oui, tout à fait.
Et elle n'aurait pas rencontré Patrick Timsit si elle
fumait pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ils rentrent pour ça.
Oh, t'as un plaidoyer, mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible. Ah oui, alors un autre truc.
Mais moi, vous pensez que c'est vraiment efficace, les e-cigarettes là?
Mais alors, apparemment, l'étude dit que non. Enfin, ça permet de freiner un petit peu, disent-ils, mais voilà, les fumeurs qui se sont mis à la e-cigarette ont davantage essayé d'arrêter de fumer.
Oui,
et ont quand même diminué par deux leur consommation quotidienne de cigarettes, mais ça permet pas de stopper. Et surtout, apparemment, le développement de la e-cigarette est en plein fin. Donc, c'est-à-dire que Marie-Francine, sa boutique,
elle n'a pas beaucoup d'avenir. Ouais, non, ils ont une mauvaise idée,
sûr,
là, les parents.
C'est pas porteur, là.
Non, mais c'est que pour ça, il faut faire comme Juliette, il ne faut jamais commencer à fumer.
Exactement, non. Et on rappelle qu'il n'y a que des mauvaises choses.
N'importe quoi. Bon, Juliette Arnault, la seule qui ne fume pas, on est laissé les filles qui ne fument pas autour de cette table.
Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Hein? Alors, sur le papier, je dis bien sur le papier. Un roman graphique, comme celui que j'ai à côté de moi, qui raconte une histoire d'espionnage industriel sur fond d'hégémonie Big Data, avec un héros qui est un détective privé, qui, sur le rayon du charisme, est plus proche d'Inspecteur Gadget que d'Humphrey Bogart. Bon, sur le papier, j'aime autant manger un sandwich au pu.
On rappelle que c'est pas bon. Ne le faites pas chez vous.
Mais, si on ne suit que ses instincts, si on ne quitte pas sa zone de confort, et bien à ce rythme, on mange toute sa vie des coquillettes au jambon et on reste avec son amoureux de dernière année de maternelle. Ce qui, pour citer les nuls, est bien, mais pas top, dans La Cité de la Peur 1994, toujours citer les auteurs de référence. Donc j'ai fait foin des coquillettes, j'ai sauté dans l'inconfort avec Le Profil de Jean Melville, roman graphique écrit par Robin Cousin. Qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est une multinationale de consulting, Gimini, qui s'apprête à lancer une application révolutionnaire de coach individuel sur lunettes connectées. Et pour que les lunettes, elles vous aident connectées dans votre vie de tous les jours, elles collectent toutes sortes d'informations sur vous. Poids, taille, salaire, impôts, signes astrologiques, bref, du varié, du détail au massif, de l'anecdotique à l'essentiel, jusqu'à ces quelques questions. Vous sentez-vous seul plus de 3 fois par semaine? Si le soleil disparaissait, voudriez-vous encore vivre sur la Terre? 3e question, pensez-vous que quelqu'un vous observe lorsque vous dormez? Bon là déjà, les questions quand même, elles font un petit peu flipper. Vous avez remarqué que depuis quelques décennies, le mot profil, il s'est retrouvé associé aux réseaux sociaux. Et moi, je me dis, c'est rigolo quand même, ces glissements sémantiques. Parce que pour moi, qui ne passe pas ma vie sur les réseaux sociaux, je suis pas peintre, je suis pas photographe, le mot profil, jusque-là, moi, ça m'évoquait un livre de Sagan qui s'appelle Un profil perdu, qui raconte la fin d'un mariage. Vous savez, le moment où le profil de quelqu'un qu'on a aimé, mais qu'on n'aime plus, devient donc de fait un profil perdu. Et là, je vous entends, Chane, vous faites un... Hein ? C'est quoi le rapport ? Est-ce qu'il y a seulement un rapport, Juliette ? Eh ben oui, il y a un rapport, parce que le héros, Gary Prudent, le détective privé donc, qui est embauché par Jiminy pour ses affaires de sabotage industriel, il va mener cette enquête, évidemment plus sombre que ce qu'elle semble être, avec son pote qui est Jean Melville, le gars du titre. Et Jean Melville, eh ben, c'est le profil perdu de Gary. Et c'est là vraiment qu'arrive la deuxième histoire, en plus du polar numérique vraiment tendu, super flippant, il y a quand même un mort. C'est l'histoire de ces deux jeunes hommes, les meilleurs amis du monde quand ils étaient petits, qui sont toujours amis sur le principe à l'âge adulte, sauf qu'ils sont devenus trop différents. Jean, lui, il a un programme d'open source, poétique et politique, association audacieuse s'il en est. Et en fait, grâce à ce programme open source, on peut lire mieux, on peut éprouver les souvenirs de celui qui les a enregistrés avant. Et ça tombe bien parce que Jean Melville, il est hypermnésique. Alors des souvenirs, il en a des tonnes. Il en a autant que, je sais pas moi, l'affaire Karachi à des participants. Et dans cette BD en noir et blanc, Robin Cousin, il nous les fait éprouver, ses souvenirs, à nous lecteurs, avec des genres d'aquarelles couleur arc-en-ciel, des aplats multicolores sur les cases, en noir et blanc et en ligne stricte, et c'est incroyablement réussi. Si par exemple, au moment de ma chronique où j'ai dit programme open source, vous vous êtes dit open quoi ? Grâce à ce roman-là, graphique, vous serez désormais avertis. Ça, et en plus du reste, la poésie et la politique. Si, c'est possible. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnault, merci. Vous pouvez nous rappeler les références de l'ouvrage ?
Oui, alors... Le profil de Jean Melville, écrit et dessiné par Robin Cousin. Et là où ça va être chiant, c'est le moment de dire le nom de la
maison d'édition. Prenez votre temps, allez-y.
Ça fait édition Fleu Bleu.
Ah, c'est-à-dire, vous pouvez m'appeler
F-L-B-L-B. Je suis désolée, si je le lis, ça fait Fleu Bleu.
Tu parles régulièrement comme ça.
Ils sont facétieux. Merci. Juliette, vous êtes sur France Inter avec Hélène Vincent. Youpi, jusqu'à 18h. On va aborder ce troisième sujet. Moi, je mets youpi des fois.
J'aime beaucoup ce youpi.
Je suis enthousiaste. Cette semaine, c'est la 5e édition du Coup de Théâtre. C'est une semaine entière dédiée aux planches. Et où ça ? Sur France Télévisions. Dans la petite lucarne, ma petite dame.
Ciel, mon mari.
Bonsoir, chérie.
Bonsoir, chérie.
T'as pas l'air heureuse de me voir.
Ben si, mais je m'attendais pas à être heureuse si tôt.
Mais bon, je suis un petit peu en avance, en effet. La soirée chez les Dupour a été avancée. Elle était pêche-toi, choisis une robe, on va mettre en retard.
Chérie, tu me dis ça comme ça, tu me prends de coups.
Bon, alors, choisis pour toi.
Non.
Bon, allez, j'y vais à ta place, choisis pour toi. Alors, tu me dis, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux ta robe rouge, ta robe jaune ? Bonsoir, monsieur, ton tailleur noir ? Il y a un homme dans le placard.
Eh bien, chérie, allons-y, chérie Dufour, on va être en retard.
Vous aurez reconnu les inconnus. Hélène Vincent, donc, c'est une opération qui s'appelle Coup de Théâtre. C'est la cinquième fois que c'est la cinquième année consécutive sur France Télévisions. Il y a quelques pièces. Hier, on a eu droit à Fleur de Cactus juste avant les Molières. Ce soir, sur France 3, il y aura la Comédie Française Chante Boris Vian. Et puis en ligne aussi sur Internet, Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. Alors, la télé, est-ce qu'elle donne une bonne image du théâtre ou elle en donne une image réductrice qui rend pas service ? Ou est-ce que ça s'équilibre tout ça ?
La réponse, elle est un peu, c'est oui et non, parce que je trouve que le théâtre, c'est magnifique dans le moment même où ça existe, dans la rencontre en direct avec le public, et que le théâtre résiste à la captation, comme on dit aujourd'hui. En même temps, si le théâtre peut donner à la télévision, peut donner envie à des gens d'y aller, s'apercevoir que ça peut être un moment absolument extraordinaire de rencontre et de plaisir commun, alors c'est une bonne chose. Voilà.
Ça peut transpirer, ça, par la télévision, surtout quand la pièce est en direct. Souvent,
ça dépend beaucoup, je crois, du texte choisi, parce que tous les textes ne passent pas.
Coltès, c'est compliqué.
Voilà. Et puis, comment c'est filmé? Oui, mais même. Mais bon, Coltès monté par Chéreau, voilà, et il y a eu...
Il y a une démarche d'envie de se cultiver qui est tellement plus grande à aller s'asseoir dans une salle de spectacle.
Oui, voilà, mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas au théâtre et qui pensent que c'est pas... Mais
Valérie Lemercier, c'est un bon exemple, parce qu'elle refuse que ses spectacles soient captés.
Et je trouve qu'elle a raison.
Mais pour nous, les humoristes, c'est quand même des choses qui sont marquantes de pouvoir voir aujourd'hui les spectacles de Desproges, même les premiers sketchs de Muriel Robin. On a plus ça pour Valérie Lemercier.
Oui, peut-être c'est pour ça que je dis que la réponse, elle est ambivalente. Parce qu'on a envie de dire oui et non. Non, c'est pas une bonne chose pour le théâtre. Et oui, en même temps, ça peut donner envie d'y aller. Et je pense que les théâtres ont grand besoin qu'on parle d'eux, qu'on les soutienne, qu'on parle de leur programme. C'est très très important. Le théâtre, c'est un des seuls endroits avec encore où on peut se rassembler à plusieurs pour prendre du plaisir.
Hier au Molière, Isabelle Huppert.
Non, oui.
Il y a aussi la cave de Juliette Arnaud, où je réunis à plusieurs pour prendre du plaisir, mais c'est une autre histoire.
Isabelle Huppert disait en recevant son Molière d'honneur, le théâtre mourra jamais. Par rapport à sans
oui,
doute et le fait de se réunir,
il était là avant les autres,
était
déjà
important.
Aussi,
oui, déjà, mais le fait oui. de se réunir, c'était son argument.
Oui, de se réunir, d'être là tous ensemble dans un moment qui est parfaitement éphémère. Pour le meilleur et pour le pire, pour le rire et pour les larmes, voilà, le théâtre c'est exceptionnel. Il n'y a rien de mieux que ça.
Peut-être puis, le théâtre gagnera à être moins cher pour être plus accessible.
Oui, c'est certain. Alors bon, le théâtre subventionné offre à ses spectateurs des prix tout à fait abordables. Le théâtre privé c'est plus difficile. Voilà.
Et la télévision a beaucoup évolué. Avant, il fallait jouer en enjambant les câbles au théâtre ce soir. Et maintenant, on se rend quasiment plus compte. Il y a juste des caméras qui prennent les places de quelques sièges à l'avant, c'est ça?
Oui, mais les acteurs ont des petits trucs pour parler, comme ça. Mais moi, je suis quand même la génération au théâtre ce soir. Quand la télévision est arrivée dans ma famille, au théâtre ce soir, on était tous là. Et c'était... je me souviens d'avoir vu Serrault, entre autres.
Et puis la télévision n'a jamais volé des spectateurs au théâtre. Au contraire, une fois qu'une pièce est passée, elle remplit encore plus.
Voilà. Et au théâtre tout de suite, ça vous dirait?
Oui, en fin d'émission, on propose un sketch à l'invité qu'il découvre. On vous a trouvé un rôle. On s'est dit que vous feriez une merveilleuse maman de Nathalie Kosciusko-Morizet. Parce qu'en ce moment, elle bosse. Elle est en campagne pour les législatives dans la deuxième circonscription de Paris. Mais c'est difficile. Il y a de la concurrence. Elle fait du porte-à-porte. Henri Guénaud s'est présenté dans la même circonscription. Alors la maman est allée aider sa fille. On se rend tout de suite dans les rues du 5e arrondissement.
Oh maman, j'en peux plus, la campagne m'épuise.
La campagne? Tu veux dire cet endroit qui sent la bouse de vache?
Mais non maman, la campagne pour les législatives à Paris.
Ah, oh, tu me rassures, j'ai eu peur que tu attrapes des maladies.
Oui, non mais je vais en attraper une, le burn-out.
Pourtant, dans ta circonscription, c'est plutôt des gens qui font travailler les autres, non?
Oui, alors on voit bien que vous n'ayez jamais, passé vos journées à serrer les mains, vous. C'est...
Jamais sans gants.
Moi, j'arrête pas de distribuer des tracts, de faire des selfies. J'ai même dû arrêter de cloper avec des pauvres pour faire du jogging avec des riches.
Tu distribues des tracts? Mais oh, c'est un truc bolchevique, non?
Mais non, même Henri Guénaud le fait.
C'est pas dont je suis le plus fier.
Henri? Comment allez-vous?
Oh maman, Henri Guénaud est un adversaire.
Et alors? Ça n'empêche pas d'être courtois. Lui au moins, il est de droite. C'est pas comme toi.
Mais enfin, Mamounette!
Madame, votre mère a raison. Quant à vous, excusez-moi de vous le dire, mais la femme française n'est pas assez entrée dans le 5e arrondissement.
Excellent. Après le discours de Dakar, le discours de Paname.
Maman, vous ne soutenez non pas votre fille?
Détends-toi, Nataloche, tu vas finir par devenir encore plus pâle.
Ah, rendez-vous seulement compte que je dois faire du porte-à-porte.
Dois-je comprendre que tu es devenu témoin de Jéhovah?
Quand je pense que j'aurais pu être dans le gouvernement Macron.
Ce n'était pas mon projet!
Monsieur Macron?
Oui.
Pourquoi puis-je savoir? Puis-je savoir pourquoi vous n'avez pas recruté ma fille?
Je vous trouble, mais si j'avais su que sa mère était aussi charmante.
Arrêtez.
Salaud Manu, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Bruno Le Maire?
Ah oui, hein, et en même temps...
Et en même temps, vous avez aussi recruté Gérard... Darmanin.
Ah, mais moi j'aurais été tellement plus compétent.
Avec tout le bien que tu as dit de Monsieur Macron.
Ah, mais ça vous écœurait d'avoir des convictions politiques, merde.
Mais avant, tu avais déjà dit du bien de Fillon. Et encore avant, tu avais dit du bien de Juppé. Et encore avant, tu avais dit du bien de Sarkozy.
Mais ça vous écœurait d'avoir des convictions politiques changeantes.
Défends toi.
Oui. Maman, va jouer de la harpe dans les bois, puis je reviens. Merde.
Au pied levé. Parfait.
N'est-ce pas?
Dites donc,
elle devrait faire de la radio.
Vous devriez faire du théâtre.
Hélène Vincent, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un bonheur. On peut donc vous voir au cinéma, dans les salles, demain, dans Marie-Francine de Valérie Lemercier, avec votre partenaire, Philippe Laudenbach, avec lequel vous formez un magnifique couple, Thomas Croisière nous l'a rappelé, avec Patrick Timsit, Denis Podalydès, Nadège Bosson-Diagné, Marie Petiot et Anna Lemarchand.
Et Valérie Lemercier.
Effectivement, et de Valérie Lemercier.
Voilà, magnifique.
Et le mot de la fin, on le dédie à Manuel Valls, le politicien le plus rejeté par les Français.
Je crois avoir été un des hommes les plus détestés de son époque. Ce fut longtemps mon chagrin, c'est aujourd'hui mon orgueil.